Tech Café, c'est votre rendez-vous sur les nouvelles technologies. Avec nous, profitez d'un résumé sur ce qui se passe dans le monde de la tech avec nos analyses et nos regards critiques. Au sommaire de l'épisode de cette semaine, quel colosse Microsoft ! Voilà un acteur qui annonce des résultats toujours plus édifiants. Comme moteur principal, Azure, les technologies cloud, on en parle ensemble. Et puis, semaine difficile pour Facebook et plus précisément pour Mark Zuckerberg. 5 minutes seulement de son audition face à Alexandra Ocasio-Cortez au congrès américain ont donné l'impression qu'un ado se faisait réprimander par sa mère. Focus sur l'actu qui tourne une fois de plus largement autour de ce réseau social. Et c'est enfin Google sur qui on se penchera ensemble avec quelques nouvelles infos, notamment autour de son annonce, on en avait parlé hein, ensemble, de la suprématie quantique. On a du nouveau à ce sujet. Ne manquez pas non plus la section jeux vidéo, nos news en vrac, mais aussi nos bonus. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve celui qui accepte encore et toujours de s'adapter au rythme de publication de Tech Café, quitte à faire deux épisodes le même soir, d'enregistrer deux épisodes le même soir, pour pouvoir partager son regard sur l'actu tech, auteur de Machine de jeu et cerveau de la chronique des composants, entre autres. C'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume.
Oui, bonjour à tous.
Tech Café est disponible en financement participatif sur Patreon. Vous pouvez avoir toutes les infos sur patreon.com/techcafé. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont choisi de soutenir l'émission à partir d'un euro par semaine et plus si... Et plus si affinité. Allez, on passe tout de suite aux actus, et notamment les actus à chaud avant de traiter les sujets qu'on a listés ensemble, parce que on a eu des petites nouvelles toutes récentes ces derniers jours avec quelque chose qui a été lancé par Uber, et c'est ni plus ni moins que Uber Money, qui est en gros une filiale d'Uber, qui va être dédiée à plusieurs échanges financiers. Il est question notamment d'un portefeuille numérique, d'une carte de crédit, d'une carte de débit et de la recharge automatique de fonds pour commander les courses sur Uber. Guillaume, est-ce que c'était quelque chose qu'on pouvait voir venir sous notamment ces quatre facettes-là d'un coup ?
Oui, on pouvait peut-être le voir venir, effectivement. Moi, pas forcément sous ces quatre facettes-là d'un coup. C'est vrai qu'il y a donc Uber Wallet, Uber Debit Account Card. Donc tout ça, c'est des trucs qui concernent principalement les chauffeurs, déjà, puisque les chauffeurs, en fait, pourront se faire payer directement sur le wallet Uber. Donc ça sera direct, immédiat, ça pourrait être géré via une appli. Et puis il y a aussi Uber Cash, qui permettra d'avoir du cashback jusqu'à 5% sur les courses. Cette fois, c'est pour les passagers. Et puis, il y a aussi Uber Pay. Alors, cette fois, c'est à destination des voyageurs aussi. Et puis, c'est en partenariat avec Barclays. Et donc, ça permettra d'avoir 5% de remise sur la galaxie Uber, c'est-à-dire Uber Vélo, Jump, Uber Eats et compagnie. Voilà, donc c'est des trucs qui permettent de se diversifier un petit peu, de se diversifier peut-être trop, je sais pas exactement. C'est vrai qu'Uber est pas en très très bonne santé financière, on le sait depuis longtemps, quoi, depuis toujours en fait. On sait pas vraiment si ça pourra aider, probablement, mais je sais pas si se diversifier à outrance comme ça, c'est forcément la bonne méthode, parce que finalement, cette licorne, là, Uber, moi, elle me fait penser un petit peu à We, The We Company. Je sais pas si on en a parlé, on en a jamais parlé ici, je crois.
Non, je crois pas. J'ai même pas en tête. C'est quoi, We Company?
We Company, c'est ex-WeWork. Donc, WeWork, c'est...
Pardon.
Voilà, oui, c'est cette compagnie. Donc,
je l'avais pas sous cette appellation-là, bien sûr.
Exactement. Ben, WeWork, donc, c'est cette application de... Enfin, application, pardon. Cette entreprise, cette grosse entreprise, qui loue des bureaux, donc des surfaces de bureaux, comme ça, dans plein de pays, dans des centaines de villes à travers le monde. Et oui, donc WeWork, bon bah c'était ça son cœur de métier. Et puis oui, sous l'impulsion de son mégalomane CEO Adam Neumann, c'est devenu The We Company, et donc c'est parti dans tous les sens. Globalement, c'est la fin d'une licorne, puisque là on a eu aussi la semaine dernière donc WeWork et donc The We Company est passé sous la bannière de SoftBank parce que c'était devenu n'importe quoi. Je veux dire, c'était devenu une catastrophe en fait financière WeWork. Et en plus c'était carrément devenu un sitcom quoi, avec Adam Neumann qui avait une gestion extrêmement opaque avec sa femme, qui a passé, je pense, la plus claire de ses 10 dernières années à boire des tequilas et à fumer des pets. Et bon, globalement...
Ils s'en tirent plutôt pas mal.
Ils s'en tirent avec ce qui n'est plus un parachute doré, mais un hélicoptère en or massif, en fait, hein, puisque c'est 1,7 milliard de dollars qu'a donné SoftBank pour prendre le contrôle de la société. Donc, avec 1,7 milliard de dollars, puis 3 milliards en plus pour éponger une partie des dettes. Et ça, en plus des 10 milliards que SoftBank avait déjà injecté dans Wii. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire globalement que Masayoshi Son s'était mis le doigt dans l'œil, je pense, tout simplement parce que WeWork s'était marketé comme étant une entreprise technologique qui était donc valorisée un peu comme un Facebook, un petit peu comme une licorne, tu sais, comme un Snapchat, quoi. Alors qu'en fait, c'est son cœur de métier, c'est de l'immobilier. Et une entreprise immobilière qui fait un truc que d'autres font déjà, parce que louer des bureaux, c'est pas la première fois que ça arrive, quoi, tu vois. Donc, globalement, il y a une espèce de correction sur le fait que, voilà, il y a eu beaucoup de rêves de vendus avec WeWork et cette espèce d'aspect de faussement tech. Et bon, là, voilà, retour à la réalité. On coupe un petit peu les branches comme ça, on vire les trucs, voilà, comme les écoles primaires, comme les, enfin, tout ce que faisait Wii en plus, si tu veux, du cœur de métier. Et globalement, ça fait 10 ans que WeWork aurait dû être profitable vu ce qu'elle fait et qu'elle ne l'est pas. Et c'est vrai que ça fait un peu penser à Uber qui perd des milliards de dollars depuis 10 ans alors que finalement son cœur de métier, est-ce que c'est vraiment la technologie ou est-ce que c'est juste de faire de la location de bagnole et du service de voiturage, tu vois, parce que finalement ce qui est vraiment tech, c'est les voitures autonomes et bon, c'est un peu au point mort chez Uber pour le moment. Du coup, je sais pas si Uber Cash, Uber Débit, Uber Wallet et tout ça, ça va réellement changer la donne, mais je suis pas certain que Uber soit vraiment jugé à sa juste valeur, comme Wii d'ailleurs était pas vraiment évalué à sa juste valeur jusqu'à présent.
Ouais, il y a un mot-clé, je trouve, pour Uber, c'est la galaxie Uber, ou l'écosystème Uber, je sais plus comment tu l'as prononcé tout à l'heure, mais effectivement, je pense que tu pointes du doigt, c'est que Uber, c'est difficile de le concevoir en tant que consommateur comme une galaxie. Autant un Amazon, je peux avoir un éventail de services Amazon, bon, Google, Apple, évidemment, on va en reparler juste après de Microsoft aussi, mais sans vouloir faire forcément une analogie avec un des GAFAM, c'est compliqué de voir Uber comme une galaxie. Finalement, moi, si Uber disparaît demain, bah, y a plein d'autres acteurs que je vais prendre en remplacement et qui vont être présents, ne serait-ce que des taxis, quoi, en fait. Oui, alors ce sera pas tout à fait le même service, mais je pense que c'est assez facile de le remplacer. Du coup, c'est compliqué, t'as raison de le positionner là-dessus. Et spécifiquement pour WeWork, y a aussi, je sais pas si tu l'as dit, j'ai pas suffisamment fait gaffe non plus, mais qu'il y avait un investissement de SoftBank de 5 milliards pour en gros reprendre toutes les dettes qui traînaient, quoi, pour WeWork. Est-ce que c'est pas le propre quand même d'une start-up, même si certaines grandissent et deviennent de très grandes entreprises respectueuses ou pas?
Ouais, alors,
respectables en tout cas. Quand est-ce que c'est pas le propre d'une start-up?
Non, mais quand ça fait 10 ans qu'on existe et qu'on est valorisé à plusieurs milliards de dollars, ça s'appelle plus une start-up là, à ce niveau-là, je pense.
C'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Mais au final, le bilan est le même. Enfin, en tout cas pour le fondateur. Après tout, il a son chèque et il est plutôt heureux désormais. Va savoir ce qu'il va faire.
Ça, il doit être heureux. Oui, non, mais d'ailleurs, c'est indécent, quoi. Honnêtement, c'est absolument indécent parce que je veux dire, ce mec, le nombre de trucs qu'il s'est facturé à lui-même et qu'il s'est payé. Enfin, je veux dire, il a été consultant pour la reprise de WeWork par SoftBank. C'est hallucinant, ce mec, c'est hallucinant. Si vous essayez de regarder un petit peu l'histoire d'Adam Neumann, c'est absolument fabuleux, quoi.
Je pense que je me suis pas assez penché pour l'instant. Je vais creuser le sujet. Allez, on enchaîne sans autre forme de procès avec une première section de news autour de Microsoft, parce qu'évidemment, c'est quand même un acteur que moi j'ai vu vieillir, avec lequel j'ai vu être en désamour progressivement, mais force est de constater que Microsoft va bien, Microsoft va très bien, et on le répète à chaque fois qu'on peut parler et faire un point sur les résultats financiers, mais enfin là, on est quand même sur des situations de l'ordre du jamais vu. Alors, ça se manifeste à plusieurs niveaux et déjà un premier élément, c'est un contrat avec Azure, donc la partie cloud de Microsoft, qui est évidemment le gros fer de lance commercial de Microsoft, qui a été conclu avec le Pentagone pour un montant, alors là, on chiffre les milliards, hein, Guillaume, on liste tous nos milliards dans cette émission, à 10 milliards de dollars donc pour ce contrat, et Jean-Michel Acronym a désigné ce contrat comme étant le contrat Jedi, donc jeudi en bon français, pour une durée de 10 ans pour moderniser les systèmes informatiques militaires, Guillaume.
Oui, exactement, c'est la soirée du milliard, hein, des milliards, puisqu'effectivement, Microsoft donc a remporté le Jedi. Alors, le contrat Jedi, c'est Joint Enterprise Defense Initiative, donc ça, c'est l'acronyme Jedi, donc on en avait déjà parlé, en fait, ouais. Quand on en avait parlé, donc il y a plusieurs mois déjà, il y avait déjà plus sur les rangs que Microsoft et Amazon, puisque IBM et Oracle avaient été écartés, il me semble. Et à l'époque, tout le monde s'attendait à ce que ce soit Amazon qui ait le contrat, et en réalité, serait était assez norme, enfin assez attendu, parce que c'est quand même Amazon le leader du web, enfin du cloud américain, quoi. Mmh. Et le fait est que c'est Microsoft qui a eu le pompon, et en réalité, il se murmure que ça serait pas du tout étranger à la, si tu veux, au gros désaccord de point de vue qu'il y a entre Jeff Bezos et le friction. Président des États-Unis.
Ouais. Oui, pour peu dire. Ouais.
Donc il y a un analyste du groupe Enderle, qui est un expert, qui a affirmé que l'intervention du président en fait brouille ce qui serait une victoire pour Microsoft, puisque il aurait, enfin, pour lui, si tu veux, Microsoft a eu le contrat à cause d'un abus de pouvoir de la Maison Blanche. Bon, vrai, pas vrai, voilà, évidemment, on ne peut pas vraiment le décider là tout de suite, mais ce ne serait pas très, très, très étonnant, effectivement.
Google s'était retiré de la course en octobre de l'an dernier.
Oui, oui, pour des raisons éthiques.
On en avait parlé déjà, fait, ouais. Voilà, pour des problèmes éthiques, effectivement. Alors, je le disais juste avant, on va peut-être se pencher un petit peu sur les résultats assez incroyables d'Azure. Alors, on parle là des résultats fiscaux, donc c'est la période où les entreprises annoncent en ce moment les différents résultats. Il y a une partie de Microsoft qui cartonne et une qui est un peu décevante. Celle qui cartonne, c'est donc Azure. Et les technologies cloud, on vient de le dire, et tu m'étonnes qu'elle cartonne avec les résultats qu'on vient de donner concernant un contrat avec le Pentagone de ce montant-là. Mais il y a la partie surface qui est un peu décevante finalement, Guillaume.
Oui, bah écoute, question pognon, ça roule, hein, c'est sûr. Donc 10 milliards de contrats avec le Pentagone, mais aussi 10 milliards de bénéfices en hausse de 21% par rapport à la même période de l'an dernier. Ça ne compte pas le contrat de Jedi, hein, qui vient juste d'être signé, donc il n'y a pas d'argent qui a encore été échangé. Et bon, oui, c'est vrai, c'est propulsé par le cloud, hein, ça représente le tiers du chiffre d'affaires, de 33 milliards quand même, le chiffre d'affaires. Et donc le gros tiers appartient au Windows Office Azure, hein, donc qui se porte à merveille, des croissances à deux chiffres. Et il y a aussi toutes les autres branches qui se portent plutôt bien, comme LinkedIn ou Dynamics, et même la division pub. Bon, voilà. Donc ils ont une division pub qui marche bien apparemment.
Je savais même pas qu'ils avaient. Mais attention, c'est une division pub liée à la technologie Search, donc j'imagine que c'est lié à Bing.
Eh bien probablement. Et apparemment,
c'est quoi,
absolument. Et bon, oui, les chiffres un peu impressionnants, c'est ceux de Surface qui sont en baisse de 4% et ceux de Xbox jeux et services, hein, qui vont stagner. Mais ça, c'est pas du tout étonnant vu qu'on est totalement en fin de cycle et que la Surface, écoute, elle se vend moyen, quoi. Peut-être que justement les annonces dont on a longuement parlé vont redynamiser tout ça et rattraper ce faux pas, entre guillemets, parce que bon, ça reste pas très très grave.
Ouais, tu m'étonnes. Alors on va s'attarder justement pendant qu'on parle de Microsoft avec quelques petits éléments, allez, un peu plus pour nous consommateurs, hein. On met de côté les milliards maintenant, on va commencer à parler des choses qui nous touchent plus directement, puisque Panos Panay, qui avait présenté le responsable de la division Surface, avait présenté il y a quelques jours, on avait parlé avec Cassim bien entendu, les nouveaux appareils. On avait parlé notamment du Surface Laptop 3 qui était présenté comme étant très facile à ouvrir et à réparer. Alors je me rappelle de cette présentation sur scène où on le voit soulever le clavier. Alors moi je me disais, oula, qu'est-ce qui se passe? J'étais pas sûr d'avoir bien compris ce qui se passait parce que j'avais l'impression que c'était il suffisait de soulever le clavier pour le retirer. Alors oui et non, c'est aussi facile que ça. Bon, il y a une petite manip à faire avant. Et en tout cas, iFixit s'est penché sur le sujet, Guillaume.
Oui, iFixit qui avait donc donné un 0 sur 20 à la réparabilité du Surface Laptop 2, vu que pour l'ouvrir, il fallait le détruire, littéralement.
Nul.
Là, cette fois, effectivement, tu peux. Donc, il y a deux. Tu enlèves les petits patins, il y a des vis dessous, et donc tu peux ouvrir le truc en soulevant le clavier. Et tu as accès à pas mal de composants, en particulier le SSD, je crois que la mémoire aussi. Enfin, tous les cas, il y a pas mal de trucs qui sont directement disponibles. Il y a des trucs qui sont mis en place avec des aimants, donc ce qui est assez simple à mettre et à remettre. Et par contre, la batterie, elle est collée, ce qui est complètement stupide, mais bon, elle est collée. Bon, il faut la décoller et la recoller, c'est un petit peu emmerdant, mais c'est pas infaisable. Du coup, il se prend une note de 5 sur 10, ce qui est très médiocre, mais ce qui est quand même un énorme progrès. Et bon, si on parle de des surfaces, on peut aussi indiquer que Windows 10 X est en fuite actuellement sur Internet.
Ce n'est pas la version porno de Windows 10, mais qui est la version qui permet d'avoir des écrans pliables.
Ah, Windows 10 sur Pornhub, ce serait rigolo de voir ça. Du coup, bon, oui, c'est donc cette version de Windows 10 qui est toujours Windows 10, hein, donc apporterait quelques petites modifications. Donc il y a plein de photos d'écran qui ont fuité. Depuis, ça a été retiré, mais bon, ça se trouve encore très très facilement. Alors, bon, il y a des petites trucs de confort, par exemple, comme sur un téléphone mobile, ça va être un petit peu le leitmotiv comme sur un téléphone mobile, quand vous débloquez l'ordinateur, la surface, et bien vous allez directement sur le bureau au lieu d'avoir le rideau comme ça où il faut encore appuyer une fois pour se loguer. Il y a donc une nouvelle présentation avec une search bar, avec les applications qui sont le plus fréquemment utilisées, tout ça présenté de manière touch friendly, évidemment, comme on l'a vu. En plus, il y a aussi une nouvelle barre pour les settings, pour les réglages, donc qui est un petit peu à l'Android, c'est-à-dire que vous pouvez l'avoir une fois avec les quand vous cliquez dessus, vous avez un premier truc, une première version avec les réglages les plus importants, puis ensuite vous pouvez comme ça augmenter le nombre d'informations, comme ceux qui utilisent Android voient ça très très bien. Donc il y a plein de petits trucs cosmétiques comme ça qui font que, bon, c'est pas une révolution, mais c'est vraiment un mélange en fait d'une interface plutôt orientée tactile avec une interface qui est plutôt orientée bureau. Il y a un petit peu des deux. Donc bon, c'est clairement un truc qui va être utilisé non seulement sur les prochaines surfaces, mais aussi sur d'autres ordinateurs. Et d'ailleurs, Lenovo a annoncé la date de sortie pour son ThinkPad X1, qui sera donc en 2020. Ce ThinkPad X1, il a une particularité, c'est qu'il a un écran pliant. Et oui, exactement comme le Galaxy Fold, sauf qu'il fait 13 pouces 3, avec une résolution de 2K, donc 13 pouces 3, c'est relativement grand, mais quand c'est plié en deux, c'est assez petit justement, et c'est très très pratique à porter. Et dedans, il y aurait donc un processeur Intel, et Lenovo dit que la machine est prête, en fait le hardware est prêt. Par contre, il y a encore des petits détails logiciels à finaliser, comprendre probablement Windows 10 X à ajuster dessus. Il est possible que ce truc sorte donc en juin 2020, c'est-à-dire pour le Computex, et donc voilà, ça fait probablement partie de plein de machines qui vont sortir sur Windows 10 X avec ce nouveau paradigme.
Je m'attarde 10 secondes sur Windows 10 X, alors pour une remarque qui a très peu de valeur dans un podcast, hein, mais juste pour dire que j'aurais bien aimé que le X ce soit par exemple un V, tu vois, ou un, je sais pas, un autre symbole qui montre que ça puisse être de côté un truc plié, tu vois, j'aurais trouvé ça vachement bien, parce que X est tellement galvaudé maintenant dans les systèmes d'exploitation, je trouve que c'est trop facile.
Bah, tout, est X.
Été
tout est X, d'ailleurs, ouais, tout est X. D'ailleurs le Huawei et le Mate X, c'est aussi un Mate X.
Ben voilà, et alors qu'en fait ça représente pas, quand tu regardes de côté, un truc plié. Alors
non,
que le V,
vrai,
oui,
c'est vrai.
Génie du marketing que je suis.
Ça aurait pas été le Mate V, mais ça aurait pu, tu vois. Donc, d'ailleurs, au passage, juste très très court, Huawei donc a donné une date de sortie pour son Mate X, donc le téléphone pliable en 3. Ça sera donc le 15 novembre, donc ça y est, ça arrive, c'est très très proche, ce sera uniquement en Chine pour le moment, et ça va faire très très mal, puisque ça sera vendu pour l'équivalent de $2,400. Le Galaxy Fold ne semble pas si cher que ça, hein, même si pour ce prix-là, vous avez la 5G et 8Go de RAM et 512Go de SSD, enfin de SSD, de carte mémoire, quoi. C'est quand même relativement cher, on verra ce que ça donne, en tous les cas, ça sera bientôt une réalité.
Allez, on fait un petit zoom à l'intérieur de ces appareils. Alors, bon, comme tu veux plus nous faire de chronique des composants, Guillaume, honte à toi, on va quand même devoir s'attarder un petit peu dans cet épisode de Tech Café sur ce qui se passe du côté des composants derrière ces machines-là. Et en particulier, on a Intel où l'architecture de la prochaine version des processeurs Atom a commencé à se dévoiler. Alors, ces processeurs Atom qu'on associe souvent à des performances assez médiocres, mais qui permettent de gagner en consommation d'énergie. Tu me corrigeras si je dis des bêtises, mais en gros, c'est le parti pris qui est fait, qui est de dire on veut des choses qui sont plutôt économes en énergie, notamment pour des appareils en mobilité, au détriment de la puissance. Alors, qu'est-ce qu'on en est sur la prochaine version de ces processeurs, Guillaume ?
Eh bien, la prochaine version, déjà, il y en a une, parce que c'est vrai que, bon, alors, Atom, la marque a plus ou moins disparu, mais ça continue à être l'architecture qui est utilisée dans les Celeron et les Pentium, et c'est vrai que c'était pas très très brillant. En tout cas, jusqu'à récemment, parce que c'est vrai que ça a quand même évolué, hein. Il y a eu plusieurs architectures successives sur Atom. C'est vrai que si on compare un Atom d'il y a 5 ans et un Pentium Gold, par exemple, d'aujourd'hui, il y a quand même des progrès vraiment significatifs. Bon, après, évidemment, ça reste des puces qui sont beaucoup moins rapides que les cores. Alors, le core, donc, le prochain Atom, ça sera un Tremont. Alors, ils appellent ça Tremont. Bon, ce sera l'architecture de la gamme Lakefield. Alors, c'est une puce qui est en sandwich, en réalité, puisque c'est une puce qui est en 4 couches, les unes sur les autres. Et donc, on en avait un petit peu parlé donc dans une dernière chronique des composants, justement, je vous recommande chaudement de l'écouter. C'est une puce qui utilise la technologie Foveros pour, en fait, empiler des dies qui sont pas gravés de la même manière. Donc, par exemple, le die de base qui va s'occuper un petit peu de la logistique, tout ça, des entrées-sorties, machin, bon, il est gravé à une finesse qui est relativement grasse, on va dire, par rapport à celle relativement grasse par rapport à celle beaucoup plus fine sur laquelle sera gravé le CPU et le GPU pour qu'on ait évidemment le maximum de densité de composants, qui sera la deuxième couche. Et en chapeau, par-dessus, on met les deux couches de DRAM. Alors évidemment, ça sert à quoi tout ça? Bah évidemment, ça fait beaucoup moins de surface sur la carte mère, donc ça fait des cartes mères beaucoup plus petites, beaucoup plus compactes, pour une même puissance, et ça permet d'économiser beaucoup. Ça permet aussi de se rentrer dans des petites tablettes ou dans des téléphones. Et donc, vraiment, t'as un gros potentiel, d'autant que... Alors, la vidéo qui est donc dans le lien avec les notes de l'émission, là, vous allez voir, c'est un des plus beaux CPU porn, vidéo de CPU porn que j'ai vu depuis très longtemps, étant donné que c'est une vidéo à image de synthèse où on survole l'intérieur du cœur avec les composants du cœur comme ça qui sont mis en évidence. Donc voilà, ouais, ça c'est donc trois alus, waouh, un décodeur de classe core, oh, deux AGU, oh, c'était impressionnant. Je veux dire, la manière dont c'est fait, c'est vrai que ça parle à un certain public. Hein, c'est bon. Bref, toujours est-il que effectivement dans le les cœurs Tremont qui seront utilisés, d'ailleurs c'est une première en tant que cœur Big Little pour certaines puces, dont les puces qui seront utilisées dans les surfaces, c'est donc un gros cœur Sonicov avec trois petits cœurs qui sont des cœurs donc Tremont, et les cœurs Tremont donc ils ont globalement ils ont des petites fonctionnalités qui sont prises au corps, celles qui se coûtent disons pas le plus de composants de transistors, et donc on aura une architecture c'est comme d'habitude une architecture Atom qui sera à cheval vraiment, enfin qui sera beaucoup plus proche des cores si tu veux que les anciens, donc ça permettra d'avoir des trucs relativement puissants. Écoute, on verra bien si ça permet à Intel de revenir sur le marché des tablettes, parce que c'est bien ça l'enjeu en fait, hein, il en est plus ou moins absent et il est pas content, donc voilà, c'est une manière effectivement de revenir sur potentiellement les tablettes et même les smartphones, ce qui est un truc qui lui échappe au profit de ARM, hein, donc c'est quand même assez un assez gros marché quoi.
Alors justement, tu parles de ARM, on va pouvoir faire la jonction assez facilement, parce que ça faisait partie des acteurs qu'on citait dans le cadre de la guerre qui était installée face aux entreprises chinoises suite au ban de Donald Trump, qui avait interdit les entreprises chinoises de travailler avec des entreprises américaines et avec des technologies américaines. En l'occurrence, il y avait ARM qui posait un petit cas de conscience, parce que mais c'est pas une entreprise américaine, mais plutôt d'origine du Royaume-Uni, et pourtant il y a énormément d'employés évidemment un peu partout dans le monde, mais notamment énormément dans les États-Unis. Donc il y avait un espèce de cas où on savait pas trop si ARM allait pouvoir continuer à distribuer ses architectures, ses processeurs pour Huawei. Ouais. Il y a du nouveau là-dessus.
Ouais, il y a du nouveau dans le sens où ils ont réussi à trouver le moyen de démontrer qu'en fait dans les enfin, dans les parties qui licenciaient à Huawei, il n'y avait aucune technologie américaine. Parce que bon, comme tu dis, hein, ils sont anglais, mais ils ont des bureaux donc aux États-Unis, en Californie, à Washington, ou même en Arizona ou à Texas. Et donc, bah, ces employés, apparemment, ne travaillent pas sur les parties qui sont licenciées à Huawei. Donc c'est bon. Donc il n'y a pas de technologie faite sur le sol américain.
On est bon, les gars.
Donc que ce soit vrai ou que ce soit juste une manière commode de présenter les choses. En tous les cas, c'est le même résultat, c'est-à-dire que Huawei va pouvoir continuer à utiliser des puces ARM, et donc ça veut dire que dans les prochaines années, on va pouvoir avoir des Kirin qui seront toujours avec donc qui seront en fait compétitifs tout simplement. Ça permet à Huawei de respirer jusqu'à ce que probablement ses propres architectures maison soient prêtes et concurrentielles.
C'est bon les gars, on a les droits, on peut y aller.
Exactement ça.
Excellent. Bon, on va passer à une autre rubrique où on va délaisser un petit peu, mais pour mieux le retrouver une autre fois, hein, Microsoft. Pour cette fois-ci, parler de toujours notre sujet qui nous suit, hein, maintenant ça devient un petit peu récurrent, dans Tech Café, de parler de Facebook et de tout ce qui gravite autour de l'éthique pour Facebook, parce que l'actualité est croustillante à ce sujet, puisque Mark Zuckerberg a été auditionné par le Congrès américain il y a quelques jours, pendant une bonne durée, je crois que c'était 6 heures, hein, j'ai pas assisté aux 6 heures. J'ai en revanche, alors on va pouvoir redétailler ensemble et repasser en revue ce qu'on peut en ressortir. En tout cas, moi j'ai vu l'interview par comment elle s'appelle, Cortis, et c'est quelques minutes qu'il faut voir, hein, si vous voulez suivre un petit peu ce qui se passe dans la tech, parce que cet échange me paraît assez incroyable. On voit Zuckerberg qui est interrogé par la députée et du coup, être Bah, je dirais même pas forcément assommé de questions, mais quand même de points de détail qui, effectivement, pris en tant que tels, sont vraiment des points de détail où on peut vite piéger quelqu'un, mais qui, en même temps, mis bout à bout et remis dans la perspective de l'importance que ça représente, sont assez édifiants. Guillaume, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette audition ?
Bah, de ces 6 heures, ouais, bah écoute, hein, c'est vrai que ça a dû être très très dur. Hein. Au départ, il était quand même venu là pour parler de Libra. Mais en réalité, il y a 18 mois de SFS, hein, de scandale Facebook de la semaine, qui lui sont retombés sur le coin de la gueule en même temps, quoi. Parce que voilà, de la pédophilie à Cambridge Analytica, hein, du Myanmar au troll russe de l'élection de 2016, du supposé biais anticonservateur ou fake news dans les pubs politiques, en passant par la discrimination larvée dans les pubs, hein, tout y est passé. Venant de tous les bords politiques d'ailleurs, de droite comme de gauche, il ressortait un truc évident, c'est que plus personne n'a confiance en Facebook, et que finalement c'est la pire compagnie qui pouvait proposer une idée comme le Libra. Et bon, Marc a su rester très très calme, et c'était pas facile à encaisser sans broncher.
Sans froid de ouf.
Ah ben oui, exercice, c'était quand même difficile, hein, et d'ailleurs lui-même il est assez d'accord avec ça, hein. Il dit « Je pense que Libra doit exister, mais que Facebook n'est sans doute pas le meilleur messager pour ça en ce moment. » C'est pas faux.
Si lui-même le dit.
Et bon, il enchaîne en assurant que Libra ne se lancera pas sans l'accord des régulateurs américains. Hein. D'ailleurs, s'il y avait un désaccord là-dessus dans l'association, Facebook s'en retirerait carrément. Mais bon, il y a quand même plein de choses qui restent très floues. Quel régulateur, hein. Marc en a fait une liste, apparemment, il en manque. Quant à la gouvernance de Libra, c'est pas clair non plus. Bon, en off, le départ de certains membres est évoqué comme libérateur. Bon, c'est ce que ça veut dire, bon, c'est pas trop, mais qui sera concrètement derrière Libra, c'est très flou, hein. Déjà, il y aura pas Twitter, puisque Jack Dorsey a répondu à la question par quelque chose comme « Quoi ? Ça va pas la tête ?»
Donc, c'est pas vrai. Hell no, c'est comme ça qu'on peut le traduire. Hein.
Donc l'association, c'est toujours en cours de constitution, finalement, hein, et Libra lui-même sans être un peu au point mort. Mais bon, faut pas oublier que l'aval du Congrès n'est pas forcément nécessaire, en fait, hein. Tant que la monnaie est approuvée par les instances financières, elle peut continuer. Cela dit, les big tech n'ont pas forcément une bonne image en ce moment, et bon, récupérer un peu de confiance, ça pourrait s'avérer utile avec un prochain président pas très coopératif, quoi. Bon, alors les mauvaises langues diront peut-être que c'est ce qui pousse Facebook, comme Google d'ailleurs, ou Microsoft avant lui, à donner $1 milliard pour résorber la crise du logement à San Francisco. C'est bien, d'ailleurs, incontestablement, c'est bien. Il y a des gens qui vont en profiter, c'est tant mieux. Hein. Mais bon, comme le font déjà remarqué pas mal de professionnels, la crise, elle est tellement terrible là-bas que ça risque de pas changer grand-chose, parce que je sais pas si tu... Enfin, c'est difficile d'imaginer, mais si tu es pas employé tech très très bien payé, comme la plupart des gens en fait, hein, ben, je veux dire, à San Francisco, il y a aussi des profs, des infirmières, des chauffeurs, de bus, voilà, tout ça, quoi. Donc, si t'es une personne normale, somme toute, ben, tu dors dans ta voiture, comme font certains, ou bien tu te prends 90 minutes de train aller, hein, pour habiter en très très grande banlieue. Faut se rendre compte que la zone est tellement tendue que si tu fais $120 000 par an, tu es considéré comme un faible revenu. Le loyer médian, c'est $3 720 par mois. Et le prix médian d'une maison, c'est $1.7 million. Alors, $1 milliard, c'est bien, c'est beaucoup. Mais dans la zone, un petit immeuble, ça peut coûter jusqu'à $130 million déjà. Donc, aussi sympa que ça soit, voilà, il est peu probable que ça change radicalement la donne, hein, surtout que le problème ne fera qu'empirer, vu qu'il y a des nouvelles boîtes basées là-bas, enfin en tout cas dans la zone, et qui vont entrer en bourse, comme Airbnb, Slack ou Lyft, des entrées en bourse qui vont encore enrichir plein de gens, qui vont encore faire monter l'immobilier, enfin bon, c'est un problème qui paraît sans fin.
C'est vrai que ça paraît insoluble, hein, finalement, et on parle tout le temps de bulles, de la tech, quand on voit les proportions que ça prend et les répercussions que ça a sur le réel, c'est assez dingue, c'est pour ça que c'est important de suivre l'actu tech, et c'est intéressant de le suivre ensemble. Tu disais juste un mot, hein, tu disais juste au début qu'il était venu effectivement pour parler de Libra, et en fait on lui a déroulé tout, mais je pense que c'est clé aussi, quand on parle de Libra et quand on veut comprendre cette proposition, de savoir qui la porte. Et au départ, on aurait pu légitimement se dire qu'un Facebook qui porte ça, c'est juste impossible, quoi. Enfin, c'est un boulet tellement énorme qu'on va parler que du boulet lui-même. Et il y a eu cette intelligence de premier point de vue qui a été de créer cette association qui rendait les choses relativement indépendantes en théorie de Facebook. Et on voit bien que malgré tout, malgré cette association, personne n'est dupe, et en tout cas le lien paraît encore trop évident. Je trouve que c'est fort qu'il ait pu dire que s'il y avait d'ailleurs un désaccord et qu'il traitait Libra, c'est fort, mais en même temps c'est tellement théorique et impossible de voir ça arriver demain que c'est facile à lancer comme ça dans le cadre d'une conversation qui cherche à convaincre des gens, quoi. Donc je trouve ça intéressant de voir que il y a besoin de rassurer eu égard tous les problèmes qu'avait Facebook pour un sujet qui n'est pas directement porté par Facebook, parce qu'on sait évidemment le lien qu'il y a entre les deux, ça c'est clair. Un petit mot d'ailleurs, en parlant de Facebook, tu as identifié des travaux du côté de chez Facebook. On sait qu'ils sont très actifs en termes de recherche, notamment en intelligence artificielle. Et là, l'idée, c'est de leur côté d'avoir travaillé à des moyens de combattre la reconnaissance faciale, Guillaume.
Oui, oui. Alors, c'est très ironique, parce que c'est vrai que pour continuer avec les ennuis, Facebook est sur le coup d'un énorme procès de 38 milliards de dollars en Illinois. Illinois, comme disent les anglophones distingués, n'est-ce pas? Et donc, c'est une class action de citoyens de cet État qui poursuit le réseau pour les avoir soumis à de la reconnaissance faciale sans leur consentement contre la Biometric Information Privacy Act de l'État. Bon, voilà. Donc, il y a une loi pour ça. Et donc, le calcul est facile, hein. 5 000 $ par tête, 7 millions de têtes, 35 milliards de dollars. Bon. Évidemment, ça sera sûrement pas le montant réclamé s'il y en a un jour, mais ça montre que la reconnaissance faciale, ben, ça va un peu vite, et même un peu trop vite, hein, du côté de la tech et aussi des pouvoirs publics parfois, parce que... D'ailleurs, tu sais pas ce qu'ils ont inventé en Australie, tu sais, là-bas, au pays de Crocodile Dundee.
Bah, je l'ai vu passer dans les préparations des news, mais effectivement, c'est trop crucial pour pas en parler. Il nous manque Pierre-Olivier, là.
Au pays de Dundee, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. Non, désolé, je sais pas ce qui m'a pris. Bref, donc en Australie, il constitue une base de visage géante pour l'identification des criminels. Bon. Ok, mais évidemment, ça peut s'étendre à l'identification des gens en général. Voilà, vous pensez à Alison, voilà, nous aussi. Et d'ailleurs, les Anglais voulaient bloquer le porno avec une vérification d'âge, c'est bien ça? Ok.
Oui.
Vérification
d'identité. Ils ont d'ailleurs annulé. Hein.
Voilà, donc c'est une vérification d'identité, hein, globalement. Alors, pourquoi ne pas utiliser la reconnaissance faciale pour ça? Donc, c'est une proposition tout à fait honnête, faite par le département des affaires intérieures à la Chambre des représentants, voilà. Alors, peut-être ils accepteront, peut-être qu'ils seront plus prudents, suite à cette nouvelle étude de l'Université du Massachusetts, qui a encore essayé Recognition, et peut encore amusé avec le logiciel d'Amazon, hein, Recognition, donc c'est un système commercial, soi-disant à la pointe, hein. Et ce système à la pointe, il a quand même reconnu 27 visages d'athlètes de haut niveau de Nouvelle-Angleterre, sur 188, comme étant des criminels. Ça fait quand même un sixième de faux positifs, et d'ailleurs, dans ces faux positifs, comme par hasard, il y a beaucoup de blacks, en plus. Donc bon. Donc effectivement, c'est assez rigolo dans cette histoire que les chercheurs de Facebook aient mis au point un algorithme qui soit, effet, comme tu dis, capable d'altérer de manière légère, mais quand même visible. Hein. Enfin, ça n'a pas tout à fait la même gueule. Il y avait Jennifer Lawrence, il y avait Daniel Defoe dans la vidéo de démo. Tu les reconnais, mais c'est quand même visible qu'il y a des petites déformations.
Moi, je les vois pas trop, justement, les petites déformations. Vous irez voir dans les notes de l'émission. En plus, c'est en GIF. On peut facilement les voir dans l'article de The Verge. Je vois pas les différences,
mais
en fait.
C'est très, très subtil. C'est très, très subtil. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a des petites déformations du visage et que donc c'est pas exactement la même tête. Et tout ça se fait en temps réel et ça empêche la reconnaissance faciale. Donc, c'est une technologie de désidentification. C'est une sorte de deepfake anti-reconnaissance faciale qui pourrait, par exemple, être appliquée à la sortie d'un flux vidéo filmé par une caméra. Tu vois, une caméra, un youtubeur par exemple pourrait appliquer ça pour pas être repéré directement ou quand un streamer, voilà, ce genre de truc pourrait très bien s'utiliser par un streamer par exemple. Du coup, c'est quand même relativement simple, en tout cas ça a l'air de fonctionner assez bien. Donc de là se demander si la robustesse des algorithmes de reconnaissance faciale actuels mérite la confiance qu'on leur accorde, tu vois, il y a quand même pas quoi.
Évidemment. Et en revanche, avec le recul qu'on a, j'ai envie de te poser une autre question, Guillaume. Est-ce que les avancées dans ce type d'algorithme ne peuvent pas aider les algorithmes à contrer ce type de défense vis-à-vis de la reconnaissance faciale? Tu vois où je veux en venir?
Ouais. Mais alors justement, je sais pas si avec ce cas-là, étant donné que ça modifie le visage, c'est pas des adversarial, comment dire. On avait déjà parlé de trucs un petit peu étranges où on rajoutait des motifs très étranges à côté, si tu veux, d'un objet pour éviter que l'objet ne soit reconnu ou alors qu'il soit reconnu de manière complètement débile par une IA. Ça, c'est pas vraiment la même chose. C'est pas un truc adversarial où on plante le réseau en lui mettant un truc un petit peu singulier comme ça à côté. C'est vraiment, on altère les traits du visage. Ce qui fait que Jennifer Lawrence, pour l'IA, la personne, elle ressemble toujours à Jennifer Lawrence, mais elle pourrait ressembler à quelqu'un d'autre aussi, tu vois. Donc, c'est une sorte de... Voilà, on est un petit peu éloigné comme ça de...
Est-ce qu'on pourrait parler d'un chiffrement du visage?
C'est plutôt une sorte de flou, comme si c'était un petit peu flouté, tu vois. Donc, je sais pas exactement si on peut réellement contrer ça d'une manière, c'est-à-dire... De réidentifier si on sait que ça a été désidentifié. Parce que comme c'est toujours un visage, comment tu sais si c'est désidentifié ou pas? Tu vois, c'est compliqué.
Mais en même temps, j'ai tendance à penser que si l'être humain est capable de reconnaître la même personne entre les deux, il y aura la possibilité de faire évoluer un algorithme pour qu'il le reconnaisse aussi. Mais c'est peut-être ma vision un peu naïve des choses. Je sais pas. On verra bien. Facebook, en tout cas, on va en parler aussi sous l'angle de la news, parce que Facebook a prévu et expérimente même en ce moment une espèce de Google News dans Facebook, donc avec un onglet supplémentaire. Tu vas nous redonner quelques éléments de détail, mais en tout cas, ils se sont prononcés Facebook en parallèle sur la manière dont s'appliquait la directive sur le droit d'auteur, dont on a déjà parlé à moult reprises dans Tech Café. Écoutez les précédents épisodes pour y voir un petit peu plus clair. Mais ça aborde la manière dont les articles remontent dans les fils d'actualité, et en particulier dans Facebook, avec les liens enrichis, donc avec les images récupérées, un extrait de texte. Je trouve que la question mérite évidemment d'être abordée, mais se pose beaucoup moins que sur un Google News, puisqu'effectivement, il y a cette volonté à la base, déjà, de la part des éditeurs et des sites web, de rendre leur contenu facilement reproductible de cette manière-là dans Facebook. Et c'est la raison pour laquelle on enrichit un certain nombre de métadonnées dans les pages. Donc, il me semble que le problème se pose moins que pour un Google News, mais Facebook a quand même pris la parole sur le sujet, Guillaume.
Oui, bah c'est exactement ce qu'ils disent en fait. Hein. Ils disent tout simplement que c'est ceux qui publient les journaux eux-mêmes finalement qui vont mettre leurs news sur Facebook et que donc bah ils donnent leur accord évidemment. Du coup, pour lui, le droit voisin s'applique pas de son point de vue. Et après, il reste les problématiques d'autres gens qui posteraient des liens enrichis. Bon, de toute façon, c'est vrai que Facebook, lui, choisit, enfin en tout cas, il dit qu'il choisit plutôt la voie de rémunérer directement la presse via un nouvel onglet, effectivement, un Google News, mais dans Facebook, donc Facebook News, tout simplement. Donc ça arrive en France, ce genre de truc. Aux États-Unis, ça existe déjà, c'est en test. Et donc il y a des journaux comme The Wall Street Journal, BuzzFeed, USA Today, le Boston Globe, etc., qui seront affichés à la manière d'un Google News, mais bon voilà, sur Facebook, hein, sauf que cette fois la presse serait rémunérée pour ça. Comme pour Apple News, les articles seront aussi sélectionnés à la main, donc il y a un board qui sera indépendant et apolitique, a priori, hein, évidemment. Hein, voilà, on ne sait pas combien il y aura de médias, a priori, tous peuvent participer, sauf qu'il faut une audience suffisamment large quand même. Donc Facebook entend soutenir le bon journalisme, ce qui est bien. Mais bon, évidemment, Facebook oblige. Il y a déjà un scandale qui se profile, désolé, parce que voilà, dans la liste non exhaustive que Nieman Lab a publiée, on trouve Breitbart News, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises.
C'est pas un truc breton,
ça. Et pas en bien. Non, c'est pas breton, c'est bien américain. Et donc, voilà, il a déjà un passif assez chargé au niveau question Infox, hein, Breitbart News. Et donc, évidemment, la question a été posée à Mark Zuckerberg, qui, comme toute sa vie, fait de son mieux pour ménager la chèvre et le chou, en mettant en rogne à la fois le mammifère et le crucifère, on va dire. Bien sûr, il s'agit de promouvoir la diversité, hein, de point de vue, et surtout esquiver tout ce qui pourrait être interprété comme un biais libéral, parce que voilà, c'est toujours compliqué. Aux États-Unis, l'ambiance, elle est vraiment spéciale. Cela dit, c'est peut-être pas une si mauvaise chose, finalement, puisque déjà, c'est pas le seul média de droite qui sera dans la liste. Il y aura aussi Fox News, par exemple. Et puis, les articles qui remonteront seront fact-checkés. Il y aura le board, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, rien n'indique que beaucoup d'articles de Breitbart vont remonter, en fait. Et ça pourrait même encourager le médium à jouer le jeu s'il veut être visible, voire même perdurer sur Facebook, puisque on sait qu'un journal qui publie des infox pourrait être carrément viré de Facebook News. Du coup, peut-être que ça pourrait pousser dans le bon sens certains médias. Voilà, écoute, pourquoi pas, je veux dire, on a le droit d'être optimiste des fois, non?
Oui, il faut. Je rebondis un petit peu sur cet aspect de news. Comment dire, j'aimerais bien, en fait, moi je trouverais ça cool que Facebook propose des flux de news, mais quand on écoute Tech Café, je pense que si vous faites partie des gens qui nous écoutaient pendant plusieurs émissions, comment est-ce qu'on peut avoir envie de suivre une actualité qui passe par Facebook, sachant tout ce qui a pu être identifié auparavant comme scandale Facebook de la semaine, j'en passe et des meilleurs, ça me paraît effectivement hyper compliqué. Je rebondis aussi sur le rôle de modérer la chèvre et le chou de la part de Mark Zuckerberg. On sent que c'est compliqué dans sa tête. On sent que c'est compliqué. Encore une fois, regardez cette session de 5 minutes où Alexandria Ocasio-Cortez l'interroge. On sent que parfois c'est compliqué dans son esprit, il sent bien qu'il pèse tous ses mots et qu'il essaye de tout arbitrer, mais c'est devenu trop compliqué, je pense, même pour lui.
Non, mais c'est trop compliqué aussi parce que dans le pays, c'est vraiment très compliqué. Je veux dire, tu sais, c'est tellement polarisé, c'est tout ce que tu dis peut être retenu contre toi, quoi. Même si t'es un avocat d'ailleurs.
T'as donc, raison. C'est très compliqué. C'est vrai. Mais le sujet, déjà, au fond, il est pas simple non plus, quand même.
C'est sûr.
Bon. Allez, on enchaîne là aussi avec une autre rubrique. Alors, ça fait quelques épisodes qu'on vous avait parlé de suprématie quantique. C'était cet article qui était paru sur le blog de Google, je crois, qui avait annoncé qu'ils avaient justement obtenu la suprématie quantique. Article qui avait disparu presque aussitôt. Et donc, évidemment, ça laissait supposer quelque chose qui devait sortir, qui n'est jamais sorti. On a eu quelques infos à ce sujet, Guillaume.
Oui, ça y est, Google a enfin publié officiellement son article scientifique sur sa suprématie quantique. Hein, donc voilà, ça avait fuité brièvement sur le site de la NASA, maintenant c'est publié dans Nature, carrément. Donc du coup, oui, on en sait un peu plus. Alors, de quoi s'agit-il ? Bon, les chercheurs de Google, ils ont construit une grosse machine, qui s'appelle Sycamore, et qui possède un réseau de 54 oscillateurs quantiques qu'on peut contrôler. Ils appellent ça des transmons, donc en fait, c'est des groupes d'électrons, qui peuvent osciller ou pas osciller, mais du coup, comme ils se comportent collectivement comme un seul objet quantique, le groupe d'électrons peut à la fois osciller et pas osciller. Donc ça fait office de qubit, parce qu'un qubit ça peut être à la fois, donc vous savez bien, à la fois 0 et 1, au lieu d'être 0 ou 1. Mm-hmm. Et donc ces qubits sont reliés en réseau, et d'ailleurs chacun peut être couplé plus ou moins avec son voisin. Voilà, la machine elle est très très grosse, elle est très chère, et la fiabilité des qubits elle est loin d'être absolue, mais bon, voilà. Néanmoins, on peut régler ce truc pour faire une sorte de calcul quantique, hein, comme si on appliquait des portes logiques et ou, etc., mais sur des qubits. Et donc, le calcul qu'ont fait les chercheurs, en fait, c'est de générer une suite de nombres aléatoires sur les qubits et d'appliquer certaines portes logiques. Donc, ça va modifier la distribution statistique d'une manière extrêmement complexe. Hein, et pour déterminer cette distribution, il suffit de faire tourner la machine, donc Sycamore, quelques millions de fois, ce qui prend quelques secondes, et pouf, on a la distribution de manière assez fiable. Après, pour faire pareil avec un ordinateur normal, il faudrait générer plein de nombres aléatoires, mais aussi simuler l'effet des portes logiques sur les qubits. Or, comme chacun peut être dans deux états à la fois, ça suppose d'explorer toutes les combinaisons possibles. Et comme il y a 53 qubits fonctionnels dans Sycamore, il y a 2 puissance 53 possibilités à explorer au total pour chaque échantillon. Donc ça fait vraiment beaucoup beaucoup, et c'est même impossible à un super ordinateur. Alors, ça, c'est ce que dit chez Google. Chez IBM, on n'est pas d'accord. Hein. IBM est un concurrent direct de Google dans ce domaine, et je crois qu'ils utilisent d'ailleurs la même technologie de transmons. Et donc, selon eux, le principal argument des chercheurs d'IBM serait qu'il n'y a pas assez de mémoire d'un Summit, qui est le plus gros superordinateur du monde. Mais c'est pas valable, parce qu'on peut aussi utiliser des disques durs, hein, en gros, et là, ça passe. Bon, surtout qu'en faisant diverses optimisations, Summit pourrait arriver à bout du problème en 2 jours et demi. C'est mieux que des dizaines de milliers d'années, mais c'est quand même moins bien que les quelques secondes de Sycamore, et puis surtout, admettons que Sycamore 2 ait 128 qubits, Summit, il serait largué dans le caniveau, le pauvre, ça serait pas gérable. Alors, suprématie quantique ou pas ? Du coup, de mon point de vue, oui et non. Je vais te répondre oui et non. Voilà. Alors, pas à cause de l'argument des chercheurs d'IBM, en fait, hein, mais c'est plutôt parce qu'on est quand même encore loin d'avoir un ordinateur quantique qui soit utile, c'est-à-dire qui résout un vrai problème qui échappe aux machines classiques. Parce que Sycamore, il permet d'estimer une distribution statistique qui est complètement arbitraire, en réalité. Le calcul ne sert strictement à rien. Il se trouve que trifouiller la machine permet de calculer cette distribution, mais c'est purement artificiel. Les bits de Sycamore ne sont pas fiables. On n'a pas encore une machine généraliste, hein, qui soit capable d'exécuter tous les programmes quantiques possibles, qui soit capable de répondre à des questions qu'on se pose vraiment et pour lesquelles un ordi classique peut pas nous aider, quoi. Donc ça avance doucement. L'article de Google atteste de beaucoup de boulot déjà accompli, et il dit aussi qu'il reste beaucoup de boulot pour accomplir, pour arriver à un ordinateur quantique généraliste, hein, utile. Un truc qui serait, voilà, à côté des serveurs classiques dans un data center ou dans un centre de calcul scientifique, quoi, tu vois. Donc ça vient, mais franchement, j'aurais étonné de voir ça avant une dizaine d'années, quoi.
Donc l'article, de toute façon, on avait raison de s'en méfier, de le prendre avec des pincettes quantiques. Google, de son côté, on va continuer à en parler aussi au niveau de l'évolution de son algorithme qui permet pour la recherche, qui a été mis à jour. Ils ont pris la parole. J'aime bien la manière dont est introduit l'article sur le sujet. Ils voient passer des milliards de recherches chaque jour, et 15% de ces requêtes sont des requêtes qui n'ont pas été vues avant. Et donc, en fait, il y a une espèce de créativité comme ça permanente de l'être humain qui utilise les moteurs de recherche qui est assez édifiante. Et effectivement, j'avais pas en tête qu'il puisse y avoir autant de nouvelles requêtes en permanence, mais en gros, ils sont en permanence en train de devoir s'adapter. Et il y a toujours cette difficulté. On nous promettait il y a ça quelques années le fait qu'on allait pouvoir écrire en langage naturel les requêtes. Et oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui ont avancé, mais pour autant, on continue à utiliser des requêtes avec des mots-clés. Donc, par exemple, au lieu de dire « peux-tu m'expliquer comment faire une pâte à crêpes ?», on va plutôt taper « recette, ingrédients, pâte à crêpes ». Et c'est vrai qu'on n'a pas, je pense, pris l'habitude d'utiliser véritablement du langage naturel. Et pourtant, Google se met à jour donc avec des nouveaux modèles entraînés au machine learning pour mieux répondre à ce type d'enjeu, Guillaume.
Oui, bah en fait, c'est que avant, les mots étaient considérés un par un, quoi, séparément. Une phrase perd son sens, tu vois. Un exemple, l'exemple qu'ils prennent, c'est « Puis-je prendre des médicaments pour quelqu'un dans une pharmacie ?» Bon, avant, Google, il va chercher les mots les plus importants, pharmacie, médicaments, voilà, globalement, et puis basta, quoi. Désormais, le fait que ce soit pour quelqu'un, c'est un élément de contexte supplémentaire qui sera compris. Tu vois, livre de mathématiques pour adultes, ça donnait des résultats de livre de maths avec le mot adulte dans la page. Mais pas spécifiquement des livres destinés aux adultes. Et donc, globalement, les questions seront considérées comme une phrase en entier, traitée d'un bloc par un modèle qui s'appelle BERT. Et BERT, ben, donc, il s'est lui entraîné sur un énorme corpus de phrases en anglais. Et en fait, on l'entraîne de manière assez rigolote, puisque on l'entraîne à deviner quels mots correspondent à une phrase à trous. Donc, il peut s'amuser tout seul avec ça, d'ailleurs. On prend quelques millions de phrases, on met des trous aléatoires et on demande à BERT de compléter. Et bon, il va se planter, mais ben, plein de fois, on le note, donc on lui donne une note, et après on recommence.
Pas
donc,
bien.
Ça prend du temps, c'est exactement ça. Et bon, ben, alors ça prend du temps, évidemment, et au fur et à mesure, Bert devine de mieux en mieux en fonction du contexte, il prend une connaissance du contexte. Et donc, il va être utilisé pour améliorer les recherches qui sont de vraies demandes en phrases, tu vois, voilà, ça représente effectivement 10-15% des recherches, donc ça va arriver dans d'autres langues ultérieurement si c'est efficace, hein, mais c'est quand même un des changements les plus profonds de l'algo de Google depuis très longtemps, voire depuis l'origine, en fait.
Ça me fait penser d'ailleurs, est-ce que tu as testé d'autres moteurs de recherche, toi, Guillaume? Qu'est-ce que tu utilises comme moteur de recherche?
Google. Le problème, si tu veux, c'est que j'ai essayé DuckDuckGo, j'ai essayé Quant, j'ai même essayé Bing un peu. Et en fait, ce dont je me rends compte, c'est que quand je vais sur DuckDuckGo et que je trouve pas ce que je veux, je vais sur Google, quoi.
Ben oui.
Et du coup, au final, c'est vrai que j'atterris sur Google assez fréquemment. C'est terrible à dire, mais c'est vraiment efficace, hein.
Ouais, moi aussi, je reconnais que malgré tout ce que j'ai pu tester, il est impossible, selon moi, aujourd'hui, avec mes usages, les requêtes que je fais, de me passer de Google, et je ressens vraiment une différence dans les résultats de recherche. On pourrait me dire, ouais, c'est une histoire d'habitude, je sais pas, hein, parce qu'au bout d'un moment, quand t'as pas la réponse à ce que tu cherches, c'est quand même compliqué avec un moteur de recherche, justement.
Après, Bing fait des progrès aussi, hein, je veux dire, tu sais, si on n'était pas... En fait, le problème, je pense, c'est que tu utilises Bing, et tu te dis, est-ce que j'aurais pas mieux sur Google.
Oui, d'accord.
Alors que si tu n'avais pas Google, tu aurais utilisé Bing et puis bon, peut-être que ça te suffirait, tu vois.
Quand on teste un moteur de recherche, il faut le mettre effectivement par défaut sur les différents appareils qu'on utilise, quoi, et essayer de se forcer à l'utiliser, mais c'est peut-être pas si évident que ça. On continue à parler de Google de manière peut-être un peu moins reluisante, puisqu'ils ont été accusés tout récemment par des employés d'espionner, au travers d'outils qui n'en donnent pas l'air, d'espionner les éventuels rassemblements. Alors c'est rigolo parce que c'est un sujet un petit peu récurrent qui remonte dans l'actu tech ces derniers temps. On nous parle des rassemblements des employés qui protestent contre des décisions ou des stratégies d'entreprise de Google. On nous avait parlé d'ailleurs de cette mise à jour du règlement intérieur pour les employés de Google qui abordait aussi ce sujet-là en disant que bon, en gros, valait mieux éviter de le faire. Et là, on a cette nouvelle petite affaire. Alors, est-ce que c'est, Guillaume, une véritable intention relativement malveillante de Google vis-à-vis de ses employés? Est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui a dérivé, maladresse, encore autre chose? De quoi s'agit-il, Guillaume?
Ben ouais, voilà, t'y pas qu'il y a une extension Chrome obligatoire sur les PC de la boîte qui moucharderait directement les réunions de plus de 100 personnes. Enfin, les demandes de réunions de plus de 100 personnes. Donc, c'est Bloomberg News, hein, qui aurait récupéré un mémo où une équipe aurait été mandatée pour faire la dite extension, qui pourrait être vue effectivement comme un moyen de monitorer les organisations de protestation quelconque, quoi. Alors, c'est pas clair, hein, parce qu'Alphabet nie catégoriquement. D'après eux, c'est juste une pop-up pour mettre en garde contre les demandes de réunions d'employés à trop de gens, éviter une forme de spamming, quoi. Et donc, d'après eux, ils affirment qu'il n'y a aucun élément d'identification qui est envoyé par l'extension. Bon, je suis peut-être un peu naïf, mais j'aurais tendance à les croire, parce que je trouve ça un peu gros. Ouais. Et puis même si c'était le cas, il y aurait toujours d'autres moyens de se coordonner, quoi, tu vois, par ailleurs. Donc je sais pas si ça vaudrait le coup. Voilà, peut-être que je suis resté bêtement sur le Don't Be Evil de le motto de Google qui a un certain âge maintenant. Mais bon, après tout, peut-être que ce motto Don't Be Evil aura coûté le Jedi à 10 milliards, donc je sais pas.
Ça ressemble au moins à une maladresse. Voilà.
Sans
c'est,
doute.
Après, évidemment, on saura pas derrière, mais c'est au moins une maladresse. Je voudrais, tiens, on peut peut-être changer l'ordre qui était prévu. Je te propose qu'on modifie un petit peu notre programme, Guillaume. Oulala, reprenons
Oulala.
Nos marques. Juste pour parler de ces apps. Alors, moi, que j'avais pas du tout vu passer dans ma veille, que je trouve assez génial, puisqu'on parle de développement de, tu vois, d'extensions, d'apps. On peut rassembler peut-être ça sous le même thème. Mais d'applications pour Android par Google qui aident à avoir une hygiène digitale. Je trouve que l'initiative est plutôt cool. Ça ressemble évidemment à ces fonctions de calcul de temps d'écran, d'alerte pour nous dire qu'on a utilisé trop nos apps, trop notre smartphone. Ce que je trouve vraiment génial dans cette initiative, c'est que ce sont des petites apps qu'on peut installer en plus sur son smartphone Android. Je trouve ça plutôt cool. Peux-tu nous détailler, Guillaume, ces petites apps et ce qu'elles font?
Oui, bah, alors il y a 5 nouvelles petites applications de digital well-being, comme ça. C'est expérimental encore. Hein. Donc il y a Unlock Clock. Unlock Clock, c'est le wallpaper de la honte, quoi, hein, qui t'indique combien de centaines de fois tu regardais ton portable, un petit peu. Il y a Postbox, qui regroupe les notifs et qui te montre un nombre limité de fois par jour, sous forme organisée, toutes les notifs que t'as reçues jusque-là. Donc voilà, c'est plutôt cool. Il y a WeFlip, c'est l'appli qui t'oblige à écouter tes amis. Donc ne l'utilisez qu'avec des vrais amis, hein, quand vous avez vraiment envie d'écouter. Donc tout le monde l'active donc, par un switch hein, sur le smartphone, ça met le smartphone en veilleuse, et le premier qui débloque le sien a perdu. Voilà, il y a un gage probablement. Donc après il y a Desert Island, donc tu limites ton usage à certaines applications et seulement celles-là. Bon, évidemment, si tu choisis World of Kings et tu peux te coller à ton clone de World of Warcraft toute la journée aussi, il n'y a pas de problème. Donc, il faut bien choisir, évidemment. Et enfin, il y a Morph qui sélectionne pour toi un petit set d'app en fonction de où tu te trouves et de l'heure qu'il est. Voilà un truc que tu pourrais potentiellement ailleurs si tu décides de te couper Pokémon Go au mauvais moment. Mais bon, voilà.
C'est vrai, ça serait frustrant.
C'est toujours à tester, donc, effectivement.
Moi, je trouve ça vraiment cool, l'initiative. Tu dis que c'est expérimental. Alors, oui, parce que, enfin, en gros, il n'y a rien de promis à long terme. De toute façon, c'est Google, donc ça peut disparaître à tout moment. Mais, en tout cas, les applications sont disponibles et vous pouvez, sauf erreur, hein, Guillaume, les installer vous-même aujourd'hui et tester.
Je ne les ai pas testées, par contre.
Et je t'invite à les tester d'ici le prochain épisode. Tu nous dis si jamais ton wallpaper de la honte s'active trop. Non ?
Ok, on va faire ça.
Allez. Peut-être que tu vas le faire, va savoir, avec un Pixel 4, on sait pas. En tout cas, c'est un smartphone qui recueille, je crois, de très bons retours hein, depuis qu'on en a parlé au global. Évidemment, notamment au niveau photo, toujours au top. Il y a quand même un truc sur lequel il semble que ce soit vraiment une grosse déception, c'est l'autonomie. Parce que oui, mesdames et messieurs, même les iPhones maintenant arrivent à avoir des meilleures autonomies que ce Pixel 4. Et il y a vraiment une grosse déception là-dessus. Alors, est-ce que ça pourrait être lié... Alors, il y a déjà la taille de la batterie qui n'est pas correctement dimensionnée de la vie de beaucoup, mais certains pointent du doigt aussi la fréquence de rafraîchissement. Cet écran à 90 Hz, donc Guillaume, tu nous as déjà dit tout le bien que tu pensais de ce type de fonctionnalité, et tu vas peut-être encore nous en dire beaucoup de bien en soulignant le fait qu'a priori, il y a des apps Google qui sont optimisé pour ne pas utiliser ce smooth display avec une fréquence de 90 Hz.
Oui, bah, il fait quand même un petit peu polémique ce 90 Hz du Pixel 4, hein, puisque on savait que c'était adaptatif, on savait pas que ça allait être autant, puisque bon, pour profiter des 90 Hz, déjà il faut que l'écran soit en luminosité haute, mais en plus il faut pas utiliser certaines applis comme Waze, Google Maps ou WeChat. Donc il y a une liste d'applications qui est blacklistée, comme ça va, d'applications blacklistées pour le 90 Hz. Alors pour la luminosité, ça s'explique, hein, c'est que le changement de fréquence se voit en fait quand tu as une luminosité plus basse. Parce que la courbe gamma utilisée par l'écran change aussi et donc ça se voit. Pour les applis, bon, ben, on trouve des logiciels qui bouffent notoirement beaucoup de batterie, donc peut-être que c'est pas la peine d'en rajouter avec le 90 Hz. Dont Pokémon Go, effectivement. Après, WeChat, c'était moins évident, mais il semble que les performances de WeChat soient assez mauvaises, et donc peut-être que ça bouffe la batterie aussi, en fait, je sais pas. Donc ça semble être une grosse prise de tête pour Google, qui était peut-être pas sûr de son coup avec l'autonomie de la batterie, et donc il aurait peut-être dû laisser de côté le truc, ça aurait pas été grave, quoi, parce que là, on a l'impression qu'ils se sont dit, bon, la batterie, elle est pas énorme, donc il va falloir gérer le 90 Hz, faut pas la bouffer trop, encore plus, c'était peut-être une erreur.
Toujours pas convaincu, donc j'imagine par 90 Hz. On a eu un commentaire à ce sujet, je me rappelle plus de la teneur, mais qui commentait ta prise d'opposition. Bon, c'était une prise d'opposition qui visait à dire que ça pouvait être un avantage. Je crois que c'est pas forcément quelque chose que tu nies sur le principe, si jamais on arrive à le percevoir. Après, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'était l'éternelle question. Je voulais en profiter d'ailleurs pendant qu'on parle des rafraîchissements d'écran, des fréquences d'affichage. C'est la technologie qui permet, en théorie, à l'Apple Watch série 5 de permettre d'avoir un écran always on, donc d'être toujours allumé. Il baisse la fréquence de rafraîchissement à une image toutes les, je sais plus combien, toutes les 60 secondes. Non, je sais plus. En tout cas, c'est très rare. Et donc, ils ont une fréquence d'affichage misérable qui leur permet d'économiser énormément la batterie. Et il semblerait qu'il y ait cette promesse-là qui puisse commencer à arriver sur les iPhones en 2020. Là, c'est la minute rumeur hein, qui permettrait de profiter de cette technologie always on, donc d'avoir un écran d'iPhone tout le temps allumé parce que la fréquence de rafraîchissement serait hyper faible. À suivre. Est-ce qu'il y a vraiment un besoin? Vraiment, je vous pose la question. Est-ce qu'il y a vraiment un besoin? On enchaîne avec la rubrique jeux vidéo. Du nouveau du côté de Stadia, Guillaume.
Oui, Stadia, c'est quoi? Pour le moment et au début, hein, c'est une manière de jouer au même jeu que tout le monde, mais en payant un abonnement, en plus d'acheter le jeu. Non, je troll, bien sûr. Je troll. Le fait de pouvoir jouer à Red Dead 2 en ultra sans console ni PC gamer, c'est évidemment, ça peut avoir son attrait. Cela dit, je sais pas si ça a autant d'attrait pour énormément de gens et si que, enfin, que ça, quoi. Parce que bon, Stadia, c'est aussi l'opportunité d'être bien plus que ça. Puisque bon, ta console est une lame de serveur globalement dans le cas de Stadia, donc elle est elle-même connectée à des milliers d'autres, et elle peut faire appel à une armée d'autres serveurs, alors pourquoi ne pas s'en servir? Alors déjà pour le multi, hein, puisqu'en gros tous les serveurs Stadia sont déjà en LAN entre eux, concrètement, voilà, donc ça peut faire des parties avec des milliers de joueurs potentiellement, c'est envisageable, et ça c'est du jamais vu quand même. Et il y a même, de même, un jeu Stadia peut potentiellement utiliser énormément plus de puissance qu'une PS4 Pro, voire utiliser carrément des TPU, les puces de Google spécifiques intelligence artificielle, et donc de là imaginer des jeux où les bots seraient des IA qui utiliseraient la puissance de Duplex par exemple pour te parler et comprendre ce que tu dis, il y a comme pas, et c'est vrai que ça changerait énormément de choses. Tu pourrais parler à ton jeu comme si c'était un véritable être humain, il te répondra, ça serait assez incroyable, et c'est plus ou moins ce que promet Jade Raymond, désormais chef de Stadia. Des jeux comme nulle part ailleurs, inenvisageables sur les consoles de salon. Alors c'est tentant d'avoir la puissance d'un méga serveur pour son jeu, sauf peut-être au niveau écologique, hein, ça je sais pas. Mais bon, si ça vous rappelle aussi les promesses de Microsoft avec sa Xbox One, hein, qui était censée pouvoir être assistée par les serveurs Azure, c'est moi aussi ça me rappelle ça, et on l'a jamais vu au final. Bon là c'est quand même différent, la machine elle-même serait dans le data center, donc voilà. Il faudrait quand même coder le jeu pour, donc ça veut dire qu'il faudra une version Stadia qui sera très différente des autres versions, ou carrément des jeux Stadia exclusifs, et ils arrivent, mais ils arriveront pas avant 3 ou 4 ans, donc voilà, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que la prochaine génération de consoles, au sens large du coup, va être vachement intéressante.
Ouais, c'est Google Stadia, je pense que c'est un move à moyen long terme plutôt qu'une proposition de valeur où ils s'imaginent vendre énormément de consoles au départ. Ils mettent un bon gros pied dans l'univers du jeu vidéo, ils le prennent sans doute très très bien, ils le mettent sans doute très très bien, et il faudra suivre ce qu'ils font aussi derrière. Bon, il y a un acteur dans le monde du jeu vidéo qui fait un peu peine à voir en ce moment, c'est Ubisoft, Guillaume.
Oui, alors un peu cher. Non, mais c'est vrai qu'ils ont eu un petit beaucoup de mal parce qu'ils ont quand même eu des grosses contre-performances avec Ghost Recon Breakpoint et The Division 2. Et du coup, ils vont déplacer beaucoup, beaucoup de dates de sortie. Donc il y aura God and Monster, Rainbow Six Quarantine. Donc ils étaient prévus, par exemple, dans le premier trimestre 2020, ils vont arriver au deuxième semestre. Donc ils vont arriver beaucoup plus tard. Finalement, ils tirent les leçons un petit peu de leur problème en disant que il fallait attendre peut-être un petit peu plus longtemps entre les jeux, qu'ils se sont peut-être cannibalisés un petit peu eux-mêmes. Du coup, ils vont essayer de voir de rebondir en fait sur la prochaine année fiscale, puisqu'il y aura Watch Dogs Legion aussi qui va sortir, et apparemment deux titres de grosses franchises, donc on s'attend à un Assassin's Creed, un Far Cry, peut-être un Beyond Good and Evil 2. Dans tous les cas, ça pourrait faire énormément de bien, puisque les projections de bénéfices sont passées de 480 millions à entre 20 et 50 millions d'euros seulement.
C'est malheureusement
pas beaucoup, on espère qu'ils feront mieux la prochaine fois.
On va continuer à parler de e-sport et des événements qui ont lieu à Hong Kong. On en avait déjà parlé, les précédents épisodes, mais on avait déjà parlé effectivement de cette action de la part de Blizzard qui retirait le prix d'un champion de Hearthstone et qu'il le bannissait des championnats parce qu'il avait pris parole publiquement en faveur des manifestations à Hong Kong. On en reparle là avec un nouveau groupe de joueurs, Guillaume.
Il y a un nouveau groupe de joueurs, oui, qui c'est Fight for the Future qui organise donc une des campagnes Enfin, ils ont organisé les campagnes anti-SOPA et anti-PIPA d'ailleurs en 2012, et là ils vont organiser donc Gamers for Freedom, qui est donc un groupe qui veut mettre la pression sur Blizzard et sur quiconque tenterait de censurer le discours politique, en particulier vis-à-vis de la Chine. Et donc c'est assez marrant parce que apparemment le scandale Blizzard n'a pas l'air de s'amenuiser quoi, depuis une bonne semaine.
Ça continue. Ça a du mal à disparaître.
Ça a beaucoup de mal. Voilà, ça a beaucoup de mal à disparaître. Et là, on va voir ce qui va se passer parce que la BlizzCon, c'est donc vendredi prochain, le 1er novembre. Donc, on va voir ce qui va se passer. On va voir s'il y a des problèmes donc à cette BlizzCon par ce groupe ou par d'autres. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il fait pas très très bon pour Blizzard.
On continue bah, du coup à parler politique sous l'angle du jeu vidéo. Décidément, qui eût cru qu'en faisant une rubrique jeu vidéo, on parlerait autant d'enjeux politiques ? Il y a la partie russe de PlayStation qui ne vous permettra pas d'acquérir, donc sur le territoire russe, la version de Call of Duty Modern Warfare, Guillaume.
Ouais, Call of Duty, bon, bah oui, Call of Duty, tout le monde dit que c'est apolitique. Bon, alors, ça, c'est toujours assez compliqué de savoir à quel point c'est apolitique, à quel point ça véhicule une idéologie ou pas. Mais les Russes ont tranché, puisqu'ils voudront pas du prochain Call of Duty Modern Warfare, parce que la Russie est dépeinte dans un des scénarios comme les méchants, en fait, tout simplement. Donc, c'est le scénario, alors, je sais plus exactement, parce que c'est un scénario qui met en scène, donc, une rebelle donc arabe dans un pays comme ça où la Russie sera apparemment dépeinte plus ou moins comme le méchant, ce serait le Farah, je sais plus, enfin bon bref, le groupe terroriste Al-Qatala, voilà, bon, bref, en tous les cas, si tu veux, il y a un gros souci à ce niveau-là. C'est vrai qu'ils sont un petit peu, les Russes, tu sais, ils sont soucieux de leur image, donc bon, c'est pas très 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 étonnant. Bon, heureusement, tu pourras toujours je sais pas s'ils peuvent, d'ailleurs c'est une bonne question ça, est-ce qu'ils peuvent jouer à Pokémon Go? Je crois pas.
Ah bon, Russes, hein. Bon, pourquoi ils pourraient pas?
Je sais pas si Pokémon Go.
Ah, c'est très
Go,
apolitique, Pokémon Go.
Je sais pas s'ils peuvent jouer à Pokémon Go ou pas, tiens, c'est une bonne question. Enfin, tous les
cas, j'ai regardé.
S'ils peuvent pas jouer à Pokémon Go, ils pourront pas. Alors que toi, tu pourras jouer en multijoueur en ligne, puisque en 2020, ça y est, vous pourrez être le meilleur dresseur online. Vous pourrez jouer, donc faire des batailles de Pokémon, non seulement offline, mais aussi online. Donc, je suis sûr que tu vas te jeter dessus.
Un jour je serai le meilleur dresseur et je combattrai Guillaume Pogjas.
Écoute, c'est vrai, c'est une bonne idée ça.
On va faire un truc en commun en dehors de Tech Café, Guillaume, pour la première fois de notre vie. Incroyable. Très bien, un petit blockbuster PlayStation VR à l'horizon.
Oui, c'est très rapidement, hein, c'est une rumeur échappée d'un tweet où une majuscule sur le mot horizon fait penser à une possible adaptation en réalité virtuelle sur PSVR de Horizon Zero Dawn. Je suis très très circonspect parce que, bon, je sais pas si t'as déjà joué à Horizon, mais c'est un jeu qui bouge beaucoup,
non,
quand même.
Pas du tout.
C'est donc outre l'aspect technique, c'est quand même un jeu qui est très très beau, qui est très très détaillé visuellement, ça va être compliqué à mettre ça sur PSVR, mais juste la jouabilité, quoi. Comment tu fais pour adapter ça en VR, ça va être vraiment très très compliqué. Mais bon, écoute, peut-être. En tous les cas, c'est un truc qui arrive et qu'on va regarder, qu'on va essayer donc de garder en visu. J'en profite pour dire que la guerre des services de streaming est encore frappée. Ah. Et une toute dernière news qui vient de tomber, c'est que PlayStation Vue va être largué par Sony, qui cherche à le revendre. Donc Sony se retire du marché du streaming, ce qui est pas super étonnant vu la concurrence féroce qui règne sur le marché.
Bien sûr. Fact-checking en live, je retombe dans mes recherches là en même temps qu'on en discutait sur cette histoire. Je l'avais pas vu passer moi en octobre 2017. En mai 2017, un blogueur russe qui aurait été condamné à 3 ans et demi de prison pour avoir chassé des Pokémon dans une église. A priori, bon, il l'avait peut-être un petit peu mis en scène et il l'avait peut-être mis sans réserve et il prenait pas mal de prises de position très athées. Donc c'est peut-être ça qui a posé problème. En tout cas, s'il a fait ça, c'est que je dis on doit pouvoir jouer à Pokémon Go en Russie, du coup.
Eh ben oui.
Ça répond en partie à la question. On passe à la rubrique en vrac. Un petit mot sur l'avis de décès autour du Gear VR, mais peut-être pour mieux ou différent ou plus approprié.
Écoute, il y a un brevet, hein, c'est toujours par les brevets quand c'est ce genre de truc. Apparemment, Samsung pencherait sur un casque de réalité virtuelle avec deux écrans, un par œil en fait. Et donc, une petite casque qui ressemble vraiment à une sorte de truc de ski, tu sais, des lunettes de ski tout simplement. Bon, on ne sait absolument pas si ça va de donner quelque chose, mais voilà, apparemment, Samsung aussi travaille sur la réalité augmentée, en plus de travailler sur le capteur d'empreinte du Galaxy S10, puisqu'on en parlait la dernière fois, et il va y avoir donc une mise à jour, et cette mise à jour demandera d'ailleurs de réenregistrer l'empreinte de son doigt sans la protection d'écran, qui peut donc flouter les résultats apparemment, mais il y a un correctif qui arrive.
Un petit mot pour dire que les AirPods Pro sont arrivés. Alors, ça est arrivé un petit peu par surprise là cette semaine, en même temps que la version d'iOS 13.2. Bon, un nouveau design, mais qu'on avait déjà vu apparaître au travers de leaks et de rumeurs, qui s'est donc confirmé. Uniquement blanc, alors qu'on le voyait peut-être uniquement noir, ou en tout cas disponible en noir, avec, au-delà du fait qu'il est intra-auriculaire, il a une réduction active du bruit, et un prix de 279 €, si je dis pas de bêtises.
Non.
Alors je dis peut-être des bêtises, mais
attends, c'est 250 $ à la base. Hein.
Mais donc,
c'est pas exclu.
Attends,
fais-moi rigoler. C'est un truc. 279. Tu peux changer la batterie ?
Non, alors tu peux pas changer la batterie, c'est des vrais AirPods.
C'est des vrais AirPods, donc ça veut dire que quoi ? Ça dure 2 ou 3 ans, après tu les jettes, c'est ça ?
Non, mais ça veut dire qu'après tu n'as plus la durée de batterie promise et qu'effectivement ils sont bien moins utilisables. Effectivement. Bon, 279 €.
279. Alors, non, moi, mais je vais arrêter, je vais être vulgaire.
J'avoue, je me moque pas forcément du bruit, du prix, non pas du bruit, du prix, parce que à la limite pourquoi pas au niveau de la qualité, puis ça dépend de ce qui se fait en face, mais c'est juste à titre perso, c'est vraiment perso, l'intra-auriculaire je supporte pas, mais voilà, c'est juste ça.
Ouais, mais bon, pour un casque à réduction de bruit, c'est très logique, hein, il faut avoir une isolation passive avant d'avoir une isolation active, sinon ça sert à rien.
Bah oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de casques qui recouvrent l'oreille, là, les gros casques, je sais pas si c'est un nom, mais qui sont en réduction de bruit active, effectivement. Un petit mot sur les filtres de beauté Instagram. Je suis sûr, Guillaume, que tu passes ton temps à faire des selfies avec les filtres Instagram pour te rendre encore plus beau que tu ne l'es.
Oui, ils ont du boulot, les filtres. Justement, donc, les filtres chirurgie esthétique vont être virés d'Instagram parce que, bah, figure-toi qu'à force de se voir plus beau qu'on est, on a envie d'être aussi beau que sur Insta. Et que ça passe souvent par la case bistouri, hein, si tu veux vraiment être aussi beau que sur Insta, puisqu'il y a quand même des filtres qui vont assez loin et qui non seulement éliminent donc toutes ces imperfections, mais qui te font des grosses lèvres, qui te font des visages très très fins, etc. Et donc toutes ces modifications extrêmes seront virées pour remédier à ce qu'on appelle déjà la dysmorphie Snapchat, qui est donc cette espèce de vision un petit peu faussée qu'on a de soi-même via les filtres qu'on peut appliquer sur donc ces applis Instagram ou Snapchat ou autres.
J'ai jamais testé, mais j'ai vu des trucs passer. C'est assez incroyable d'ailleurs ce qu'on peut faire avec. Et c'est effrayant aussi. Un petit mot sur la consommation de vidéos sur Netflix, qui pourra peut-être demain être faite, alors comme sur YouTube et évidemment comme sur les podcasts, en x0.5 x1.5. Guillaume, est-ce que tu serais prêt demain à regarder ta série préférée en x1.5 pour être le premier à l'avoir terminée en premier ?
Oh non, pas pour être le premier. Mais c'est vrai qu'il y a des films ou des séries qui pourraient mériter 1,2 ou 1,3 quand même des fois. Mais justement, c'est une grosse question qui se pose parce qu'il y a donc Apatow, donc un créateur donc, qui a déjà produit des séries Netflix, qui a carrément interpellé la plateforme et qui lui a dit que c'était un scandale. En substance, qui lui a dit que c'était un scandale et qu'il ne serait pas le seul à le penser, que celui qui donc publiait, donc le distributeur comme ça des vidéos, s'octroie le droit de modifier le contenu. Parce que pour lui, effectivement, un film ou un épisode de série, c'est une œuvre d'art, et le rythme qu'on lui donne, c'est quelque chose qui est voulu par le créateur, et donc altérer ce rythme, c'est altérer l'œuvre, ce que un distributeur ne devrait pas se permettre de faire. Et donc c'est une vraie question de savoir effectivement est-ce qu'on peut considérer un film comme un podcast comme les autres, quoi, tu vois, c'est que vous passiez en 1,2 sur un podcast, bon, ça peut se comprendre. Est-ce que vous manquez quelque chose ? Est-ce que vous trahissez l'esprit de l'auteur en regardant un film en 1,2, 1,5, je suppose que ça sera réglable. C'est une bonne question. Bon, après, c'est une bonne question toute rhétorique, parce qu'en réalité, tout le monde le fait. Hein. Je veux dire, j'en connais sur 2 heures de perdu qui passent beaucoup moins de 2 heures, justement, qui perdent beaucoup moins de 2 heures à chaque film en les regardant en 1,25. Et oui, c'est vrai que moi aussi, ça m'arrive des fois d'accélérer un petit peu des trucs qui ont un rythme un petit peu lent. Mais bon, la question est ouverte et elle est plutôt intéressante.
Avant de terminer avec la fonction de stationnement automatique de Tesla Smart Summon, Guillaume.
Ben oui, hein, ça a été utilisé, c'est vachement utilisé en fait, hein, depuis que c'est sorti, c'est-à-dire il n'y a pas tellement longtemps en fait, puisque c'était le 26 septembre, ça a déjà été utilisé 1 million de fois. 1 million de fois, les gens ont appuyé sur un bouton donc sur leur smartphone pour appeler leur voiture, donc il faut qu'elle soit à 200 pieds, je sais pas exactement combien ça fait, ça doit faire quelque chose comme, je sais pas moi...
400 mètres.
Non, tu divises par 3, donc tu divises une moins de 100 mètres, en tout cas moins de 100 mètres, et donc qu'elle soit en vision, quoi, enfin, dire qu'elle soit visible. Ouais. Et donc, normalement, la voiture, ben, elle vient comme un petit chien-chien, elle arrive vers toi, et normalement, sans écraser personne, ni péter aucune poubelle. Alors, ça s'est passé 1 million de fois, ça s'est pas toujours passé 1 million de fois sans problème. Twitter regorge, si tu veux, de vidéos rigolotes avec des c'est voitures qui j'ai hésitent face à un piéton ou qui roulent sur des trucs qu'elles devraient peut-être pas ou qui... bon, elles ont pas, si tu veux, il y a des petits soucis, mais... A priori, ça se passe, bon, finalement, pas si mal que ça, puisque ça se passe 1 million de fois, il n'y a pas eu 1 million de drames. Hein. Et en plus, évidemment, Musk a dit... le 23 octobre, il a dit que justement, bah, ils avaient une flotte énorme et qu'ils étaient en train de regarder tout ça, regarder un petit peu tous les bugs et qu'ils feraient une mise à jour assez rapidement pour améliorer tout ça et qu'ils continueraient à améliorer leur truc. Donc voilà, la version 1, bah, elle fonctionne. La version 2, écoute, sera peut-être un peu moins rigolote, mais aussi peut-être un petit peu plus efficace.
Ouais, c'est indéniable qu'ils vont améliorer les choses, je leur fais 100% confiance en tout cas. On a fait le tour des actus tech, vous êtes au courant de tout ce qu'il fallait savoir pour être à jour. On va passer tout de suite au bonus. Guillaume, qu'as-tu emmené dans ta besace pour les bonus de cet épisode de Tech Café ?
Ben alors cette fois, on n'a pas du tout parlé, mais c'est presque Halloween. Ça veut dire qu'il faut, il faut un bonus spooky, un bonus qui fait peur.
T'as raison.
Alors, un bonus qui fait peur. Moi, je ne vais pas vous faire peur, mais peut-être que Midsommar, oui. Bon, Midsommar, donc, qui est un mot suédois qui veut dire milieu de l'été, tout simplement, Midsommar, en fait, tout simplement en anglais.
Ah, oui.
C'est un film américain, bon, mais qui se passe en Suède. Donc, en plein été, au nord de la Suède, et donc, il fait presque toujours jour dans cette contrée-là. Et c'est assez rigolo parce que c'est une sorte de thriller horrifique qui a une vraie composante anthropologique, puisque ça se passe dans une communauté très particulière en Suède, qui a donc ses propres tradition, on va dire. Et donc, c'est marrant parce que c'est un film d'horreur qui est en plein soleil, qui est complètement halluciné. C'est très très beau, la photo est très très belle, et puis, il y a énormément de petits effets comme ça qui mettent mal à l'aise. C'est un film... c'est un slasher à la base, hein, mais c'est un slasher assez original, je trouve. Donc voilà, si vous voulez prendre le contre-pied des trucs comme Scary Stories, qui se passe évidemment tout dans la nuit, tout ça la nuit, et ben si vous voulez prendre le contre-pied, voilà, Midsommar, c'est l'horreur en plein soleil.
Et est-ce que c'est du plein soleil angoissant? Tu sais, moi j'ai toujours en tête The Walking Dead, la série où t'as des environnements où justement t'as les morts vivants qui s'approchent, alors même si on n'est pas du tout sur une histoire de morts vivants, mais tu vois ce que je veux dire, c'est en plein soleil, il y a ce côté étouffant, etc.
Non, il y a plusieurs, le côté étouffant il est donné, si tu veux, par la communauté en fait, c'est-à-dire par le côté anthropologique des choses, qui d'ailleurs dérive aussi, parfois c'est vraiment marrant en fait, c'est très très étrange, parce que parfois c'est rigolo, parfois c'est très très gore. Parfois c'est complètement étouffant, parfois c'est halluciné, ou tu sais pas réellement si c'est assez intéressant comme film, je trouve.
Bon, bah écoute, merci. Moi je peine en ce moment à vous trouver des bonus qui sont à rattacher avec la tech, alors je vais le faire de manière totalement décomplexée, ou alors peut-être que ça va être à l'occasion d'Halloween que vous allez pouvoir vous faire peur en vous coupant complètement de votre smartphone et de vous retrouver entre amis. Alors moi je voulais vous recommander un jeu de société auquel j'ai joué à quelques reprises là dernièrement, et que j'ai acquis. On a fait pas mal de petites parties, on a fait plusieurs parties ce week-end, notamment en famille. Ça s'appelle When I Dream. C'est une collection de chez Asmodée. Alors ça coûte 30€, donc pour un jeu de société de ce type là où il y a autant de matériel d'aussi bonne qualité, je pense que honnêtement c'est donné, vous pouvez vous ruer dessus, surtout en sachant en quoi il consiste. C'est assez génial, l'idée que c'est, vous avez à tour de rôle, donc vous jouez à mettons 4, 5, 6 personnes, et à tour de rôle vous allez porter un bandeau, donc vous allez jouer les yeux fermés, les autres joueurs vont essayer de vous faire deviner un mot qui apparaît sur une carte, mais sans prononcer évidemment de mots de la même famille ou dans une autre langue qui serait le même mot, de traduction, etc. Et donc on doit vous faire deviner des mots, et au fur et à mesure que vous vous souvenez des mots, et ben vous avez un rêve qui commence à se composer dans votre esprit. À la fin du timer qui vous est alloué, vous allez devoir reciter le maximum de cartes que vous avez devinées, que les autres vous ont fait deviner. Alors ça pourrait s'arrêter là et être moyen rigolo, mais en fait il y a une composante du jeu qui est absolument géniale, c'est que à chaque fois où il y a un rêveur, une nouvelle personne qui met le masque devant les yeux, les rôles sont redistribués et vous pouvez être soit une fée donc qui cherche effectivement à faire deviner le plus de mots possible au rêveur, vous pouvez être peut-être un croque-mitaine qui doit lui au contraire induire le plus possible en erreur le rêveur, donc le rêveur va devoir commencer à identifier qui est une bonne aide et qui essaye de l'induire en erreur. Et vous avez aussi le marchand de sable qui, lui, doit faire un équilibre le plus parfait possible entre les cartes découvertes justes et les cartes sur lesquelles vous vous trompez en tant que rêveur. Et donc, en fonction du rôle que vous avez et des résultats que vous obtenez, vous cumulez des points qui sont eux-mêmes très bien représentés à base de petites étoiles, de petites lunes, etc. Le jeu est hyper sympa. Il est accessible à partir de 8-9 ans. Il faut des enfants plutôt smart au niveau du langage et qui sachent réagir relativement vite. Mais même purement entre adultes, c'est assez génial. Si, encore une fois, vous voulez vous couper un peu de la tech et passer un super moment entre amis ou en famille, je pense qu'objectivement ça plaira très vraisemblablement à tout le monde. Ça s'appelle When I Dream et ça se trouve pour 30€ dans vos boutiques évidemment de jeux de société proches de chez vous. Est-ce que tes jeux de société, Guillaume, et est-ce que je t'ai intéressé au travers de cette petite description?
Ben, ça peut être pas mal, oui, effectivement. Je suis pas plus jeu de société que ça, mais je déteste pas, pourquoi pas.
Bon, il faudra que tu testes, parce que c'est les renouveaux des jeux de société qui sont très différents de ce que peut-être t'as pu connaître par le passé. Merci beaucoup en tout cas Guillaume pour toute la préparation de cette émission et du temps qu'on a pu passer ensemble à partager nos points de vue sur l'actualité tech. Encore une fois, vous êtes à jour, vous pouvez aller vaquer à vos occupations ou écouter un autre podcast. On va rappeler à tout un chacun où est-ce qu'on peut nous rejoindre à titre individuel. Guillaume, où est-ce qu'on peut échanger avec toi si on veut continuer à échanger avec toi après Tech Café?
Ben, vous me direz sur Telegram si Midsommar mérite le 1.5, 1,5 fois, parce que c'est quand même un film très long. Et je suis en train de me demander si le 1.5, ça l'aurait pas. Oui, 2h20. Voilà. 2h20.
Tu viens de justifier le truc. Ok. Merci beaucoup, Guillaume. Moi, c'est Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr avec tous les liens qui portent vers les différents endroits où je peux apparaître. Donc, c'est le meilleur point de repère. Pour Tech Café, vous le savez, c'est sur techcafé.fr où vous pouvez suivre toutes les émissions qui sont diffusées, mais aussi, là encore, tous les liens qui peuvent intéresser le podcast. Merci beaucoup de votre fidélité. Merci beaucoup de vos commentaires et avis. N'hésitez pas à parler autour de vous de Tech Café et à recommander l'émission à des personnes qui connaîtraient peut-être pas encore le monde du podcast mais qui aimeraient en savoir plus sur la tech. Merci beaucoup, à très bientôt dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.
Ciao à tous.